Bruno Pinchard, la géographie physique des espaces de la mythologie, à partir du constat d'un déni croissant dans nos sociétés modernes de la dimension conflictuelle de l'inconscient. Cette évolution peut d'ailleurs se traduire par des décisions politiques, comme on l'a vu lors du vote de l'amendement Accoyer. Contre cette offensive du positivisme, vous plaidez, Michel Boccara, pour un retour au mythe comme parole, non pas exactement vrai comme parole vraie, mais vivante.
Oui, je pense effectivement que en marxien convaincu qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle étape de la dialectique. Il y a environ 2500 ans, les Grecs ont fait un premier renversement, un umvertung, comme disait Nietzsche, un premier bouleversement en s'éloignant du mythos qui était à l'époque la parole par excellence, pour rencontrer le logos qu'ils ont identifié à une certaine écriture alphabétique. On reviendra peut-être d'ailleurs sur cette question très controversée et complexe des origines de l'écriture. Donc le mythos pendant deux millénaires a été identifié à la fable, à la parole fausse, avec toujours un relent de soufre. Hein, y compris chez les Grecs, on savait bien qu'il fallait se méfier des mytheux. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps, effectivement, précisément parce que la connaissance critique du logos a progressé, de revenir dialectiquement vers le mythos, qui a toujours été là, mais souterrainement, qui a cheminé souterrainement sous le logos, pour construire ce que j'appellerais une mythologie. Et c'est pour ça que je pense que la mythologie, elle est en avant de nous, dans une sorte d'articulation de ce qu'on pourrait appeler le logos et le mythos. Alors
qui est déjà présente d'ailleurs dans le mot mythologique.
Mais qui est dans le mot mythologique. C'est pour ça que je fais très attention au langage. Il faut sans arrêt redéfinir les mots. Hein, et d'ailleurs, les cultures traditionnelles avaient des rituels pour redéfinir les mots, pour les réinventer périodiquement. Nous avons maintenant les dictionnaires, qui quelque part sont une manière de réinventer les mots, puisqu'il y a des nouveaux mots qui apparaissent, d'autres qui disparaissent.
Alors justement, Michel Boccara, vous tenez à distinguer, hein, ce qui est évidemment, même dans une perspective scientifique, quelque chose d'indispensable. Vous tenez à distinguer d'une part le produit élaboré par le travail anthropologique descriptif, hein, que ce soit un mythe, un rite, puisqu'on parle de mythe, hein, c'est très lié, bien sûr. Mais donc ce récit élaboré par le travail qui est en quelque sorte le travail anthropologique est en quelque sorte au bout de la chaîne. Hein, et puis la pratique mythique ou rituelle dans laquelle justement ce mythème s'inscrit, de l'impulsion initiale. Il y a donc en somme trois moments. Et ce que vous appelez le vécu mythique, Michel Boccara, c'est justement le premier de ces trois moments, c'est-à-dire le moment de l'impulsion initiale. On pourrait dire de la catastrophe originaire.
Oui, je dirais la part mutique du mythe, puisque l'on sait qu'une disait le mot mythe, et c'est ce qui est merveilleux avec les mots. Hein, Freud l'avait d'ailleurs vu dans un petit texte qui s'appelle « Du sens opposé des mots primitifs », avec un petit jargon positiviste de l'époque. ce qui est extraordinaire, c'est que les mots nous donnent souvent des leçons profondes sur les origines du langage. Hein. Et dans Mythos, nous avons la racine mutique et la racine mythique. Hein. Et c'est ce moment mutique, précisément, lorsque le vécu nous envahit et qu'on est effectivement dans une sorte de confusion avant l'expression. N'est-ce pas? Nous sommes dans le stade impressif et nous allons passer au stade expressif. Alors c'est très important parce que nous sommes obligés non seulement de redéfinir les mots mais les concepts. Hein, et il faut les redéfinir constamment. Un concept est quelque chose qui est en évolution permanente, en umvertung, en bouleversement permanent. Donc effectivement là, moi je distingue très profondément mythe et expression du mythe. Et je distingue notamment mythe et récit du mythique. Donc la plupart du temps, lorsqu'on a affaire à des textes produits par les ethnologues, on ne devrait pas parler de mythe, on devrait parler de récit mythique. Parce que ce mythe, que je renvoie à un vécu fondamental, hein, et qui s'exprime dans des pratiques, hein, on pourrait d'ailleurs se demander si toute pratique n'est pas par essence mythique, c'est une bonne question, on y reviendra, le récit n'est pas la seule forme d'expression. Il y en a d'autres, il y a la danse, il y a le théâtre. Et c'est là où d'ailleurs le terme rituel me paraît un tout petit peu gênant. Il fait partie de ces mots écrans, de ces catégories importées, là cette fois-ci importées de la liturgie catholique, auxquelles on fait dire plus que ce qu'elles ne veulent dire. C'est pour ça qu'à la catégorie de rituel, je préfère moi, parler de pratique mythique ou de mise en scène du mythe.
Alors, entre, disons, la source et l'expression hein, du mythe, vous dites qu'il y a une dynamique, une tension constante, qui se retrouve d'ailleurs dans l'élocution du mythe.
Tout à fait. Alors, il faut revenir aux origines de la parole, telle que nous pouvons, un, la reconstruire scientifiquement, deux, l'intuitionner mythiquement. Hein, j'aurais pu dire logiquement, mais le terme logique, là encore, a glissé. Et aujourd'hui, il veut dire quelque chose d'un peu différent du terme scientifique, puisque, n'est-ce pas, les sciences humaines ne sont pas des sciences logiques. D'ailleurs, existe-t-il des sciences inhumaines? C'est une question que vous pourrez poser à l'organisation, à l'organigramme du CNRS. Mais pour revenir au fondement des choses, effectivement, le mythe, dans sa genèse, il s'enracine dans une dimension que j'appellerais, moi, la dimension subjective du réel. Donc, nous ne sommes que des sujets, et l'objet n'existe pas, l'objet absolu n'existe pas, ou s'il existe, nous ne pouvons rien en savoir. Bon, je reprends un argument bien connu, mais je vais au-delà. Toute expression humaine est mythique dans la mesure où elle est subjective. Et l'illusion absolue, c'est l'illusion du scientiste qui s'imagine avoir évacué la subjectivité. Voilà pourquoi la psychanalyse, en réintroduisant le sujet au cœur de la science, fait le pas qui la rapproche du mythe. Et c'est pour ça que la psychanalyse, pour moi, est la première mythologie scientifique digne de ce nom, bien que les psychanalystes ne soient pas toujours heureux de cela. Pourquoi ? Parce que Freud lui-même était dans une tension où il avait envie de faire œuvre de science, pour des raisons, je dirais, narcissiques, liées peut-être à son grand-père rabbin, enfin, on pourrait faire comme ça une psychanalyse ou une sociopsychanalyse de Freud, hein. Et donc, il a souvent été contradictoire, et il a souvent développé des usages contradictoires du terme mythe. Mais, si nous prenons la manière dont Freud définit la pulsion comme des êtres mythiques, eh bien, on voit bien, quelque part, qu'il y a un niveau où Freud comprend que ce qu'il redécouvre avec l'inconscient, c'est cette force profonde du mythe, mais avant qu'il ne soit devenu logos. C'est là où il vous faut faire un effort, il faut pas être anachronique, comme disent les historiens, il faut essayer de se replonger dans la parole telle qu'elle était parlée, ou telle que peut-être elle était chantée, avant qu'elle devienne langage. Dans ce qu'on pourrait appeler le corporage, avant que le corporage devienne langage, c'est-à-dire avant que l'homme devienne cet animal vocal qu'il est aujourd'hui. Puisque, selon les hypothèses que l'on peut faire, et là, c'est les préhistoriens qui nous viennent en aide, il semblerait que l'homme n'ait pas toujours été un être de parole, et ce serait peut-être relativement récent, entre 400 000 et 200 000 ans, on est encore assez loin, là, on est dans une approximation, vous voyez, qui est très, très juste d'ailleurs, hein, parce que...
On le voit bien, on l'entend bien, en vous écoutant, Michel Boccara, le mythe nous reconduit toujours à la question des origines, et c'est encore le cas dans ce texte cité par Pierre Clastres, un anthropologue qui est disparu aujourd'hui, mais que vous connaissez bien et que vous avez connu, Michel Boccara. Ce texte, donc, extrait d'une mythologie, d'un récit mythique des Indiens Guarani, c'est la Nouvelle Terre, la renaissance en quelque sorte de la Terre.
Namandou, père véritable à son messager, eh bien, va, mon fils. À Karai, père véritable, demande s'il établira en son lieu véritable sa future demeure terrienne. Karai, père véritable au messager. Je n'établirai quant à moi, en son lieu véritable, rien de ce qui est destiné à ne pas durer. J'abattrai quant à moi mon courroux sur cette terre. Namandou, père véritable. Eh bien, les choses étant ainsi, va et demande à Yakaera, père véritable, si sa future demeure terrienne, il l'établira en son vrai lieu. Yakaera, père véritable. Je désire quant à moi établir en son lieu ma future demeure terrienne. Voilà que déjà ma terre annonce le malheur de la blessure pour nos fils et pour les derniers de nos fils. Or, malgré cela, je ferai que se répande la brume. Les flammes, la brume, assurément je ferai qu'elles se répandent sur les êtres destinés au chemin qui parcourt la patrie de la mâle vie. Moi, quant au tabac, quant au squelette de la brume, je ferai qu'il soit, afin que derrière elle puissent s'abriter nos fils. Je répandrai doucement quant à moi sur tous les êtres de la forêt la lumière de mes éclairs silencieux.
Voilà, Michel Bocara, La Nouvelle Terre, un extrait de mythe d'origine des Indiens Guarani, donc qui nous dit que cette nouvelle terre, qui est visiblement moins bonne que la précédente, elle est néanmoins habitable grâce à la flamme et à la brume, au feu et à la fumée du tabac. Vous connaissiez ce texte ?
Oui, je l'ai lu il y a longtemps, mais je le redécouvre comme si c'était la première fois. Justement, je crois que on se trompe sur l'origine, parce que on s'imagine que l'origine c'était autrefois. Pas du tout. L'origine c'est au présent. Hein, c'est comme ce vieux précepte zen, toujours neuf, vit chaque chose comme si c'était la première fois, et sur chaque chose le regard du débutant. Et je crois que le temps du mythe c'est le présent, le présent absolu. Hein? Et c'est pour ça que, quand on parle d'origine, on est toujours en décalage.
Vous dites même, Michel Bocara, si on parle de vérité du mythe, c'est ça. C'est la vérité du mythe, c'est son actualisation au présent.
Voilà. Et on peut d'ailleurs travailler sur le terme véritable, hein, qui était présent dans ce texte et qui se retrouve chez les Mayas, puisque le gouverneur, le chef le plus important des Mayas, c'est le Halach.
Bocara, oui. Que vous êtes spécialiste des Mayas.
Voilà. Je suis un généraliste qui travaille sur un laboratoire maya, entre autres. Et le halach, qui veut dire vérité en maya, qui est traduit par vérité, parce que une traduction, trahison, comme on sait bien, hein, grâce aux Italiens, a la même racine que flèche, hal. Donc c'est bien la flèche, c'est bien l'archer zen, n'est-ce pas ? La métaphore fonctionne bien. La flèche qui atteint son but à l'instant précis. À l'instant T0, la vérité est là. L'instant se déplace, c'est toujours T0, et c'est toujours la vérité. Mais si on avait un enregistreur logique, eh bien T0 serait différent du nouveau T0. Hein, c'est ce que dit Bachelard lorsqu'il dit que A n'est jamais égal à A. Donc on retrouve justement les racines profondes de la science en tant qu'elle se fait critique d'elle-même, hein, en tant que, pour moi, les meilleurs mythologues scientifiques sont les physiciens.
Alors je voulais revenir tout petit peu avec vous, Michel Bocara, sur cette dimension mutique, hein, qui est, comme vous dites, donc davantage le secret du langage qu'un langage secret dans le mythe. Et c'est cette dimension de mystère et de silence qui est pour vous justement le passage de l'événement mythologique premier, l'événement source, à son expression. La métaphore de cette tension, de cette dynamique qu'il y a entre les deux, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi donc la dimension de secret et de silence.
Oui. Alors, indépendamment des aspects poétiques, on peut être très précis.
J'avais envie d'employer le mot de sidération, comme on parle de la sidération de la victime. Ce silence.
Oui, c'est les
plein de résistance.
Sidéral aussi et sidéraux qui sont justement dans un espace tellement grand qu'il n'y a qu'une seule manière de le percevoir, c'est d'entrer en vibration directe avec lui. Comme disait Chuang Tzu, je sais que ce poisson est heureux par voie de communication directe. Là, c'est le saut de l'empathie. Hein, et je pense que ce saut d'empathie, il est mythique. Hein. Mais pour revenir à une perception, je dirais, plus logique, phénoménologique des choses, ce silence, on peut le percevoir lorsque l'on écoute autre chose que les récits, c'est-à-dire lorsqu'on fait attention au vécu, lorsqu'on est en contact avec des gens qui vivent le mythe, ou même avec ses propres mythes que l'on vit, puisque toutes les nuits nous vivons nos mythes, que nous comptons éventuellement le matin si nous nous en souvenons. Donc, lorsqu'on est en contact avec ces personnes, très souvent, en tout cas le terrain yucatèque m'a donné un très grand nombre d'exemples, les gens passent par une phase où ils ne doivent rien dire. Non seulement parfois ils ne peuvent rien dire, mais parfois, ils ne doivent rien dire. Et s'ils parlent...
C'était déjà vrai chez
les
Grecs.
Oui, c'est un universel. Hein, c'est
les
un
cultes
universel.
À mystère, oui.
Voilà. Et c'est ça. Pourquoi il ne faut rien dire ? Bon, pas seulement parce que le secret nous protège en tant que tel, et c'est vrai, il nous protège. Hein, le secret défense, n'est-ce pas, protège nos états, donc cet aspect mythique du secret n'a pas disparu, mais aussi parce que il faut laisser le temps de l'élaboration. Et ce temps de l'élaboration est un temps personnel. Et avant que le mythe devienne collectif, c'est-à-dire qu'il devienne une parole vivante collective, il faut laisser ce temps de passage, ou de repassage, de rejeu, comme dirait Marcel Jousse, un anthropologue que j'aime beaucoup, de rejeu du monde à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite on puisse l'exprimer à nouveau. Vous voyez, le mouvement est double, toujours dialectique. Hein. Le monde joue en nous, nous le rejouons, puis nous projetons ce jeu à l'extérieur.
Alors, lorsque, enfin, vous avez au sujet justement de ce moment de latence des expressions très très parlantes. Vous parlez de trou noir, tout bruissant de résistance. C'est un silence actif.
Oui, alors cette métaphore du trou noir, elle est intéressante parce qu'elle fait partie de la mythologie de la physique contemporaine, mais elle a été aussi réélaborée par un enfant psychotique. C'est Franz Tustin qui en parle, et elle raconte comment, pour exprimer ce qu'il vivait en lui, il a parlé de trou noir. Elle a fait le titre de son livre, Le trou noir de la psyché. Hein, parce qu'effectivement, pour comprendre la mythologie, il faut faire sans arrêt des va-et-vient incessants entre les différentes disciplines dans lesquelles est divisé le savoir aujourd'hui. Hein, puisque la mythologie, si elle voit le jour, ce que j'espère, je contribue à travailler pour qu'elle voit le jour dans quelques siècles, c'est un programme transdisciplinaire où le savoir ne sera plus cloisonné. Hein. Et donc ce trou noir, c'est extraordinaire parce que c'est la rencontre entre la pensée d'un enfant psychotique et la pensée des physiciens. Hein. Et c'est donc une mythologie contemporaine.
C'est d'ailleurs l'ambition des quatre volumes qui paraissent sous votre direction aujourd'hui, le mythe, pratique, récit, théorie, c'est de croiser justement toutes sortes d'approches qui ne sont pas forcément anthropologiques ou disons du domaine des sciences humaines ou de l'histoire, mais aussi de gens qui pratiquent d'une certaine manière, ou qui, dans leur pratique, rencontrent la question du mythe.
C'est ça. Nous avons réuni des poètes, des paysans, des voyants, des dignitaires religieux, et nous avons travaillé de manière vivante. Hein. Ces livres sont accompagnés d'un DVD qui rendra compte de l'ensemble de nos débats, de ce que j'appelle un transtexte, car il ne s'agit pas seulement d'un film, mais d'un labyrinthe de récits et de textes. Hein. Et là, j'ouvre un programme, en quelque sorte. J'ouvre un programme, je propose une direction de recherche, il y a 60 personnes qui travaillent ensemble, qui constituent ce que Gramsci appelé dans ses rêves et dans ses mythes politiques un intellectuel collectif. Je crois qu'il faut construire aujourd'hui des intellectuels collectifs et trouver des modes de fonctionnement, qui sont des modes de fonctionnement très différents de ces parades d'oiseaux qu'ont souvent les scientifiques entre eux dans les colloques, pour citer Georges Bataille dans un très beau texte.
L'intellectuel collectif, c'est aussi une idée que Bourdieu avait mise en pratique, en fait. Alors, juste pour finir sur cette dimension mutique et silencieuse du mythe, vous citez un mythe assez connu, le mythe du cavalier qui doit franchir un grand précipice et qui se retrouve de l'autre côté. L'impact formidable de son sabot ayant laissé sur le roc une trace profonde, et c'est alors les témoins qui viennent le déchiffrer, qui essayent de déchiffrer cette trace qui est devenue silencieuse, mais qui est la trace d'un bruit et d'une explosion formidable.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mythe, on le retrouve dans un grand nombre de cultures, il apparaît dans la mythologie française, mais il est là chez les Grecs. Et chez les Grecs, quelle est la trace de ce sabot? C'est le delta, la première lettre de l'alphabet grec, parce que dans le premier alphabet grec, la première lettre était le delta. Et c'est la marque du viol du centaure sur Danaïre, une femme désirée, qui vient imprimer la première lettre de l'écriture. Et parce que l'écriture est un bond par-dessus le langage pour retrouver la matérialité des choses.
Mmh. Ça, c'est votre intuition, Michel.
Alors, c'est mon intuition, mais elle rencontre, je dirais, des recherches très précises et très savantes, de, par exemple, Léon Vandermeersch sur l'origine de l'écriture chinoise, ou de Jean-Jacques Glasner sur l'écriture sumérienne, que nous avons réunis d'ailleurs dans le troisième volume sur Voyance et Divination.
Mmh. Michel Boccara, entrons encore un petit peu dans le domaine du mythe. En écoutant cette lecture, vous dites que ce qui fait la vérité du mythe, c'est la manière dont il s'actualise. Et bien voilà justement une lecture récente du mythe d'Isis et d'Osiris sous la plume de l'écrivain anglais D.H. Lawrence.
C'était Isis, mais non pas Isis, mère d'Horus. C'était Isis endeuillée, Isis en quête. La déesse de marbre peint, le visage levé, s'avançait une cuisse en avant sous sa légère robe gaufrée, dans l'angoisse du deuil et de la quête. Elle cherchait les parcelles d'Osiris qui étaient morts, morts et dispersés au loin, morts et écartelés et jetés en morceaux à travers le vaste monde. Et elle devait retrouver ses mains et ses pieds, son cœur, ses cuisses, sa tête, son ventre. Elle devait les réunir et entourer de ses bras le corps rassemblé jusqu'au moment où, réchauffé, il reviendrait à la vie et où il pourrait l'étreindre et féconder son ventre. Et l'étrange ravissement angoissé de la recherche persistait à travers les années. Son cou se dressait. Ses yeux évidés absorbaient intérieurement leur regard dans l'extase douloureuse de la quête. À travers la robe légère, sous la ceinture, son ventre semblable à un bouton de fleur montrait un nombril délicat qui était l'éternelle question, l'éternelle quête. Et à travers les années, elle le retrouvait, morceau par morceau, le cœur, la tête et les membres et le corps. Et pourtant, elle n'avait pas trouvé la réalité dernière, l'ultime fil conducteur qui seul pourrait vraiment le ramener vers elle. Car c'était Isis, l'Isis dont le ventre, comme le lotus subtil, attend, immergé et non éclos, l'approche de ce soleil intime dont les rayons s'épanchent des lombes du mâle Osiris.
Là, tout imprégné d'érotisme diffus, ce texte extrait de L'homme qui était mort. Une autre revisitation d'un mythe bien connu, l'homme qui était mort, c'est donc le Christ et sa résurrection. Un texte donc de Dietsch Lawrence. Je vous voyais sourire, Michel Bocara, et écoutez ça avec beaucoup d'attention.
Oui, parce que on touche à des universaux. Les poètes, dans la mesure où ils vivent leur poésie, sont des mytheux, des gens qui actualisent le mythe et les récits justement que l'on en a doivent être recréés constamment. Et là, ça m'évoquait tout à fait un grand récit cosmique des Mayas dont nous avons une magnifique représentation cinématographique, puisque nous avons 17 vases de l'époque classique qui mettent tous en scène ce mythe fondamental de l'origine du monde, où la mère cosmique, justement, derrière le mur du temps, envoie une singularité, pour reprendre la mythologie de la physique contemporaine, cette singularité se déploie en un cordon ombilical, justement ce fil dont D.H. Lawrence parlait, qui devient le serpent, hein, le serpent à plumes, autre titre d'une œuvre de Quetzalcoatl chez les Aztèques et Kukulkan chez les Mayas. Hein. Et à ce moment-là, on voit ces images, c'est ça qui est extraordinaire. Mayavaz.com permettra de les voir sur Internet, car il y a un très beau site qui les met en scène. On voit ces images, j'en donne une dans un des ouvrages dont vous parliez tout à l'heure. Et là, on a vraiment quelque chose qui va s'animer, c'est-à-dire que ce cordon ombilical va se couper. Je revis le mythe avec vous. Il va saigner et de ce sang va naître la parole, toute parole et toute vie. Donc ça peut être la vie coupée par les étrangers, nous par exemple, les derniers en date, mais ça peut être aussi ce premier étranger qui est le père et qui coupe le cordon, n'est-ce pas? Et donc on a là une sorte de mythe originel de la mère cosmique, de cette mère père qui nous anime et qui d'ailleurs nous permet peut-être de réinterroger la mythologie des anthropologues, c'est-à-dire le matriarcat, ou le droit maternel, si on veut le dire dans des termes plus élégants pour des oreilles scientifiques, c'est-à-dire cette idée d'un temps où le père n'existait pas, où il n'y avait pas de mots pour le terme père, comme on l'a redécouvert par exemple dans la société Na, mais comme c'est aussi le cas dans un certain nombre de sociétés. Moi j'avais fait un petit article justement sur les Mayas en 87 sur le père éloigné. Le père renvoie au concept d'étranger. Chez les Mayas, on retrouve des notions que la psychanalyse redécouvrira. Hein, et cette idée de se demander si avant ce mythe du père mort, il n'y a pas au contraire un mythe où le père n'est pas là, n'est pas encore là, où il n'est pas nommé. Hein. Et donc là on combine, si je puis dire, une analyse mythique avec une analyse logique, puisqu'on en fait une histoire. Hein. Et c'est toute la dialectique d'essayer de faire une histoire du mythe en enrichissant notre connaissance de cette histoire humaine qui a plusieurs millions d'années.
Il est vrai, Michel Bocara, que tous les mythes, récits et autres cultes de la grande déesse, la déesse mère, semblent être antérieurs justement à la fois, disons, à l'identification des dieux comme des individus masculins.
Alors, c'est une position avec laquelle il faut avoir beaucoup de prudence, c'est sûr. Il faut à la fois une grande confiance et une grande méfiance, comme disait Nietzsche. Mais c'est vrai que les arguments de Bachofen, pour le citer, hein, ce savant balois la femme de Bachofen était sortie avec Nietzsche au théâtre, d'ailleurs. Donc c'est un petit milieu qui avait proposé, effectivement, en se basant sur les évidences mythologiques, l'idée qu'un stade où la mère était dominante, on dirait aujourd'hui, où la mère était plus présente, hein, au sens mythique du terme. Il est vrai que ça a été balayé par toute une série de travaux qui montraient qu'effectivement, on n'arrivait pas à objectiver des sociétés qui correspondaient à la description de Bachofen. Jusqu'à ce que on mette le doigt, il y a quelques années, sur une société chinoise qui en masquait d'autres, où il y avait justement ce cas de figure. Alors on voit bien qu'effectivement, si historiquement les choses se sont passées de cette manière, c'est-à-dire si le père a remplacé la mère, hein, comme on peut en faire raisonnablement l'hypothèse,
comme
c'est un petit peu normal qu'aujourd'hui on ait du mal à se débarrasser du père. C'est normal. Mais la mère est là, par exemple sous la forme de la Vierge.
Ouais. Nous avons encore devant nous, si j'ose dire, cette scène d'origine, le meurtre du père.
Voilà, on peut dire que nous l'avons devant nous, et nous avons à retrouver la mère obscure, la mère dans la nuit.
Alors, passons peut-être à un mythe qui dit beaucoup aussi de notre civilisation d'aujourd'hui, un ancien mythe maya qui s'appelle donc le mythe de l'aigle marchand.
Voilà.
Michel Bocara.
Alors c'est un mythe très intéressant parce qu'il met en scène notre pouvoir mythique le plus important, nous en Occident. À quoi s'intéressent les gens que l'on rencontre, hein? Mon ami Jean Monod a fait la même observation il y a une vingtaine d'années. Ben, il s'intéresse à une chose, le pouvoir que nous dominons, le pouvoir mythique qui nous permet de dominer les autres, c'est l'argent. Hein? Et aujourd'hui, les chamans sont tous passionnés par l'argent et l'utilisent dans leur pratique mythique. Alors l'aigle marchand, c'est justement l'histoire d'un waï. Hein, un waï, c'est quelqu'un qui se métamorphose en différents personnages, mais il se métamorphose d'une manière complexe. C'est pas seulement une métamorphose imaginaire, hein, c'est aussi une métamorphose réelle où il prend les coutumes, il prend la langue, il prend le vêtement des gens chez qui il va voyager, hein. Donc, vous voyez, il y a un rapport avec notre espion contemporain, c'est un prestidigitateur. Là, on est aux frontières de la fraude et du rêve, hein. Le chaman est toujours quelqu'un qui trompe son monde et qui se trompe lui-même parfois. Donc, ce waï, à l'époque coloniale, il devient un marchand. Pourquoi ? Parce que les Mayas vivent le commerce et le personnage du commerçant comme un retour de cet aigle, de ce nahual, de ce waï des temps préhispaniques. Et cette fois-ci, au lieu de faire couler le sang, il fait couler l'argent. Et l'argent, c'est l'équivalent du sang. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on fait couler son sang pour gagner de l'argent.
Alors, ce que vous dites à propos de cette dimension actuelle, constamment actuelle ou actualisable du mythe, ça se vérifie notamment dans les civilisations que vous connaissez, les Mayas, les Aztèques, puisque l'arrivée des Espagnols a été intégrée justement dans la vision, dans la cosmologie et la vision mythique du monde.
Alors, bien sûr, l'arrivée des Espagnols, et puis en ce moment, ils sont en train d'intégrer Internet. Par exemple, il y a un mythe de la corde de vie, du cordon ombilical dont je parlais tout à l'heure, qui est en rapport avec Internet. Donc, si vous voulez, le mythe est quelque chose extrêmement plastique, non pas qu'il ait un rapport passif avec l'histoire, mais il l'actualise sans arrêt en intégrant les données historiques. Les gens sont très très au parfum, j'allais dire, de ce qui se passe sur la planète et de plus en plus aujourd'hui. Alors c'est pour ça que le magnifique monument de Lévi-Strauss est un peu rigide, parce que Lévi-Strauss saute par-dessus le Mexique et saute par-dessus tous ces mouvements historiques du mythe en faisant un récit d'origine. J'ai dit tout à l'heure que si on ne comprend pas que l'origine, elle est là, aujourd'hui présente, Dominique aujourd'hui présente, disait Éluard, si on ne comprend pas cela, eh bien on ne comprend rien à l'origine.
C'est ça la vérité des mythes.
La vérité des mythes, c'est cette vérité au présent qui sera différente demain, mais qu'on prendra pour la même. C'est Héraclite qui disait « Nature aime se cacher ». Je crois qu'Héraclite était très proche encore de ce mythos mythique, juste au moment où il allait se transformer en logos.
Merci Michel Bocara. Je rappelle que vous êtes ethnologue chargé de recherche au CNRS et que vous avez publié, donc sous votre direction, les 4 volumes intitulés Le mythe, pratique, récit, théorie, publiés donc aux éditions Economica, Anthropos Economica. Christophe Bro a lu les textes, c'était Le Vécu Mythique, dernier volet de cette série consacrée à la vérité des mythes. La semaine prochaine,